Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 6 du podcast Le Safety. Très heureux de vous retrouver cette fois-ci dans les temps pour discuter de NFL. Fidèle au poste, Alan est là pour m'accompagner. Comment ça va, Alan?
Ça va super, Ben. Ça va super. On a un nouveau quarterback dans l'équipe, donc tout va bien.
Et oui, les Patriots ont signé Cam Newton. Non, notre épisode ne va pas être consacré à cette signature, mais bien évidemment, je donnerai son avis à Alan. Mais en fin d'émission, on va vous faire patienter pour discuter de la signature de Superman Cam Newton du côté de la Nouvelle-Angleterre. Aujourd'hui, Alan, un épisode un peu particulier, parce que voilà, on a décidé de faire un point sur la situation actuelle de la NFL face au coronavirus. Voilà, les informations tombent au goutte par goutte et il est un petit peu difficile toujours d'avoir une idée claire de ce qui va se passer, ne serait-ce que dans quelques semaines, pour la NFL et la reprise du championnat. On a donc décidé de discuter de ça, à savoir ce que l'on sait en ce moment, ce qu'on peut aussi imaginer pour la suite de la saison, parce que la NFL, on va le voir, est assez secrète sur pas mal de dossiers. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les plateformes où vous écoutez le Safety pour être ne rater aucun nouvel épisode qui sort, on vous le rappelle, toutes les deux semaines. Puis nous, sans attendre, on démarre cette émission intitulée Reprendra, reprendra pas, reprendra différemment, la NFL face au coronavirus. C'est une question que se sont posées beaucoup de ligues américaines. Alan, comment évoluer dans ce contexte particulier? On va parler de ça dans un premier temps. Comment jongler entre les contraintes financières qui existent et santé publique? Et surtout dans tout ça, je vais te lancer par ce premier point, Alan. En quoi le numéro d'équilibriste, voilà, entre contraintes financières et santé publique, en quoi le numéro d'équilibriste de la NFL, il est différent? Est-ce qu'il est plus facile? Est-ce qu'il est plus difficile que les autres ligues qui ont dû débuter aux États-Unis ou même en Europe?
Selon moi, il est plus difficile parce que, en fait, faut simplement regarder comment fonctionne un calendrier NFL sur 12 mois. Et la partie pré-saison plus saison est très longue, c'est-à-dire la partie pré-saison, si on la prend dans son intégralité, elle peut commencer fin avril, début mai, jusqu'à une reprise du championnat le premier week-end de septembre en général, avec un mois d'août consacré à des matchs de pré-saison, un mois de juillet consacré vraiment à un training camp au complet, et ce qu'on appelle des OTAs, des choses comme ça, donc des moyens de s'entraîner, où c'est, des fois c'est pas obligatoire pour les superstars d'être là, mais 75% des joueurs sont souvent là, même un peu plus, des fois un peu moins. Donc le calendrier, il fait, et surtout le coronavirus est tombé à un moment où le calendrier d'intersaison était totalement chamboulé pour les équipes NFL qui voulaient, voilà, travailler ensemble, adapter des nouveaux joueurs, prendre des nouveaux joueurs draftés, les incorporer dans les effectifs. Donc je pense que sur ça, au moment où c'est tombé, avec la quarantaine mise en place dès fin mars aux États-Unis, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, là on débute le mois de juillet, on devrait être vraiment dans la période où toutes les équipes sont au complet en train de travailler, et c'est pas le cas. Donc c'est vraiment par rapport au championnat de foot européen où il y avait une dizaine de matchs à terminer, une championnat de NBA, on avait fait plus de la moitié de la saison régulière, là en termes de calendrier, c'est super problématique.
Exactement, je pense que tu as dit le premier point important. En fait, la NFL doit débuter. C'est la grande différence. Ils doivent débuter là où les autres ligues, que ça soit les championnats européens, la NBA, a dû reprendre. Ce qui fait qu'en fait, pour ces ligues-là, il fallait surtout réfléchir à la fin. La NFL doit réfléchir toute sa saison. Alors beaucoup ont dit que c'était un avantage parce que la NFL avait le temps de réfléchir et pouvait s'adapter et pouvait adapter complètement son produit. On voit en l'occurrence, alors est-ce que ça a été un espoir peut-être trop grand que les choses s'améliorent ou un manque de préparation? On voit qu'on a débuté le mois de juillet, voilà, alors on enregistre, voilà, et en l'occurrence, on voit pas plus clair. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on part toujours avec quelques ajustements, on va revenir sur une saison qui pourrait être normale, mais il n'y a pas vraiment de révolutions qui ont été faites. Bien sûr, on a appris que le Hall of Fame Game a été supprimé, mais je sais pas si tu me rejoins dans cette impression que on essaye de gagner du temps, en fait. J'ai l'impression que Roger Goodell et la NFL et les propriétaires essayent de gagner du temps. J'entendais notamment dans le podcast de Yahoo Sport avec Charles Robinson notamment, ils expliquaient que ils parlaient avec des dirigeants de certaines équipes et les dirigeants de certaines équipes lui expliquaient qu'ils espéraient pour notamment mettre en place des tests à grande échelle, avoir des tests pour le coronavirus, des tests salivaires extrêmement rapides. Sauf que ça, on est en juillet. C'est de l'ordre de l'utopie. Enfin, on n'a pas de test salivaire ultra rapide et c'est un petit peu se voiler la face que d'espérer que la situation sanitaire peut complètement changer d'ici à 6 semaines.
Mmh. Moi, je pense qu'il y a aussi le fait que tout le monde a un petit peu salué comment la draft a été réussie. Enfin, tout le monde, ça a été une réussite parce que c'était vraiment dans la période intense de coronavirus. Ça a réussi à se faire. Donc, peut-être qu'après, on a fait confiance à la NFL sur comment ils allaient appréhender la suite, vu qu'ils avaient réussi à appréhender en si peu de temps comment mettre en place cette draft, donc fin avril. Moi, personnellement, je me suis pas dit, ah, ils ont réussi à faire la draft comme ça, ça sera simple de mettre en place le calendrier dans les mois futurs. Mais peut-être que des gens se sont dit, voilà, ils ont réussi à faire ça, ils ont le temps, la saison reprend en septembre, c'est dans 5 mois, il y aura l'été. Je pense quoi, il y a eu peut-être que ça a joué. Mais c'est sûr que, en fait, si tu regardes, pour moi, on n'a pas avancé, en fait. Depuis 2 mois et demi, pour moi, il n'y a pas eu vraiment d'avancée, pas eu d'informations, pas eu de plan vraiment mis en place. On sait pas, on peut s'y attendre, mais on sait pas si, voilà, il y aura du huis clos total, peut-être des gens dans les tribunes, on sait pas si, voilà, l'avantage de la NBA, par exemple, ils ont pris une localisation, une grosse localisation, ils se sont mis dedans, c'est dans des salles, donc c'est plus simple que dans des gros stades. On sait pas comment ça va se passer dans les stades, on sait pas s'il y aura des stades qui seront peut-être choisis pour mettre plusieurs équipes dans un gros complexe hôtelier et tout ça. Et non, il y a pas vraiment eu d'avancée, j'ai l'impression, beaucoup de silence de la part de la NFL depuis quelques mois, ouais.
Beaucoup de silence, c'est peut-être pour avancer dans son cœur, dans son essence, Alan. Qu'est-ce qui fait que la NFL relève du casse-tête? C'est-à-dire que voilà, beaucoup de spécialistes ont dit la NFL, et notamment c'était un des spécialistes à la Maison Blanche, Anthony Fauci, je crois de tête, qui expliquait que la NFL amène des particularités et des problématiques spécifiques qui sont extrêmement difficiles auxquelles ils sont extrêmement difficiles à répondre en temps de pandémie. Alors, bien sûr, on peut parler de la taille de l'effectif, mais quoi d'autre? Qu'est-ce qui fait que la NFL pose un vrai problème?
Déjà, la taille de l'effectif, tu l'as dit, mais surtout la taille de l'effectif en pré-saison, c'est 90 joueurs. Hein. 90 joueurs par équipe. C'est 53 avec le... D'ailleurs, ça va être augmenté, ça, je crois. Je crois qu'ils veulent, ou alors ils veulent augmenter le nombre de joueurs sur l'équipe d'entraînement. Le practice squad, ils avaient eu une réforme sur ça. Donc, en gros, c'est beaucoup de joueurs. C'est un peu moins de 100 joueurs par équipe, qui sont là. Donc 3200 joueurs quasiment. Si on réfléchit comme ça. Les staffs, c'est énorme. T'as un coach par poste. T'as des assistants. T'as vraiment beaucoup beaucoup de monde, t'as beaucoup de monde qui travaille dans une équipe NFL, t'as dans chaque localisation cantine tous les jours, t'as des spécialistes vidéo, t'as des gens qui sont là pour faire plein de choses, tous les kinés, tout ça, c'est des énormes staff, des énormes ossatures. Donc rien que ça, c'est peut-être bête, mais juste on est face à une pandémie, faut pas regrouper beaucoup de monde dans un même endroit. Bah, malheureusement, là, tu regroupes beaucoup de monde dans un même endroit juste par la taille de la chose. Déjà, en NBA, ça, on parle de, t'imagines, s'il y a un coach qui l'a, il y a 15 joueurs, on parle pour une trentaine de, 40 maximum par équipe. Là, 40, c'est même pas le nombre de joueurs qu'il y a sur une feuille de match.
Ouais, c'est déjà le nombre rend la NFL difficile, puis, on va dire le type de sport, le nombre de joueurs sur le terrain, etc. On n'est pas sur du 5 contre 5, on est voilà sur des effectifs pléthoriques, ce qui, plus t'as de monde, plus tu rajoutes du risque, forcément. C'était Kevin Seifer dans un article très intéressant sur ESPN qui expliquait que le football américain, c'était le sport le plus difficile en temps de pandémie. C'était vraiment le sport le plus difficile. Je pense aussi, moi c'est un point que j'ai très peu vu aborder, mais je le trouve intéressant avant d'en aborder d'autres. Je pense que la culture de la NFL pose un vrai problème. Je m'explique. Dans tous les sports, il y a un petit peu ce fantasme ou cette glorification du sportif qui va au-delà des blessures. Voilà, un mec qui joue malgré les blessures, souvent en sport, c'est salué comme quelqu'un qui a du courage, qui se bat. En NFL, c'est glorifié, je pense qu'il n'y a aucun sport qui glorifie ça autant que la NFL, où on se pavane, où on applaudit des mecs qui jouent avec des bras cassés, etc. Même si, en fait, on peut quand même prendre un peu de recul et se dire que d'un point de vue sanitaire, c'est catastrophique quand même de se mettre dans ce genre de situation, bref. Et je trouve que du coup, dans sa culture, la NFL, d'accepter son sort, etc., ça me pose un vrai problème en tant que pandémie. Prenons un exemple, est-ce qu'un joueur majeur d'une équipe, si par exemple il tombe malade du coronavirus avant un match important et qu'il doit avoir ses 2 semaines d'isolement, est-ce qu'il va le dire? Parce qu'on sait que, par exemple, pour un joueur star, ça peut être pour un quarterback, ça peut être déterminant. Pour les joueurs qui ont des contrats précaires, entre guillemets, à l'échelle de NFL, et il y en a beaucoup, t'as peut-être pas envie de rater un match important alors que t'as pas de contrat la saison d'après. Enfin, je pense que ça aussi, cette culture NFL du rapport au risque est extrêmement problématique et au secret. Et c'est pas que les joueurs, c'est aussi les franchises. Combien, tous les ans, on a un problème de rapport des blessures falsifiées. Donc, je crois que cette culture-là d'un côté, niveau joueur, de glorification de la douleur et de l'autre, d'un peu de falsification des rapports de blessures, c'est extrêmement inquiétant quand ce qu'il faut actuellement, c'est de la clarté et de la transparence.
Ah, mais un truc qui est assez connu du côté des Patriots depuis quelques années, c'est quand on n'a pas assez de place dans l'effectif, dans les 53, et qu'il y a un rookie non drafté qu'on aimerait garder. Ça s'appelle le Foxborough flou. Enfin bon. En gros, on le met sur la liste des blessés de toute la saison, comme ça on le garde, il part pas ailleurs. Rien que ça, en termes de clarté, et d'autres équipes le font aussi. Hein. Donc en termes de clarté, ça peut être problématique dans un moment où tu dois vraiment tout savoir au jour le jour de la santé, de l'état sanitaire des joueurs. Je me rappelle aussi, par exemple, ça renvoie à ce que tu dis. Il est depuis revenu un peu sur ses propos, mais Jamal Adams qui avait dit que lui, il était prêt à mourir sur le terrain. Il voulait mourir sur le terrain lors de sa draft. Il avait dit, moi, le foot, c'est ma vie. Si je meurs sur un terrain, ça me pose pas de problème. Tu vois, donc, rien que ça. Il s'était fait un petit peu tailler par des stars comme Ray Lewis, des gens comme ça, qui aussi étaient des gros monstres à leur époque. Depuis, il est un petit peu revenu sur ça, mais ça monte à culture, comme tu l'as dit, du sacrifice, de joueurs qui veulent absolument jouer, absolument marquer l'histoire, marquer leur franchise. Donc ouais, c'est tout ça, ça pose vraiment problème. En plus de, ben voilà, tu l'as dit, c'est 11 contre 11. En plus, c'est les 11 qui jouent en défense ne jouent pas en attaque, donc c'est 22 joueurs minimum. Bien plus, il y a des rotations. Beaucoup, c'est beaucoup plus ouvert que des effectifs d'autres sports. En NFL. Donc beaucoup plus de chances pour que le virus, s'il est contracté, se diffuse.
Ouais, c'était dans Sports Illustrated, un ancien médecin des Chargers expliquait qu'en gros, sachant que en plus tous les joueurs NFL ils vivent pas au même endroit en fait, ils ne vivent pas tous dans la ville dans laquelle ils jouent. Je lisais notamment un article de The Athletic sur les Bills. 68%, je crois, des joueurs des Bills sont actuellement, pendant leur lieu de vacances, vivent actuellement dans un état qui vit un rebond niveau coronavirus. Donc ça pose des vrais problèmes. Et d'après pour revenir à ce que disait cet ancien docteur des Chargers, d'après lui, toutes les équipes vont avoir minimum un cas. Enfin, c'est obligé d'après lui que toutes les équipes vont avoir minimum un cas. Et on sait qu'il y a déjà eu des fuites côté Cowboys, notamment le cas le plus médiatisé, c'est celui de Zeke Elliott, qui a été testé positif, enfin beaucoup de tests positifs. Et c'est vrai que là se pose la question, si on regarde un peu en avant par rapport à une saison, eh bien si demain Zeke Elliott, c'était pendant la saison qu'il tombait malade et qu'il infectait tout le groupe de running back, parce qu'on sait qu'on travaille beaucoup par groupe de position en NFL, il a infecté tout le groupe de running back des Cowboys, comment on fait? Cette question-là, elle se pose beaucoup. Et enfin, on pourrait quand même se retrouver, si avec la volatilité du virus, face à des équipes qui sont par exemple décimées à un poste particulier, ou une escouade complète.
Ouais, t'as vraiment raison de mentionner ça, j'y avais pas du tout pensé. C'est ils sont ils, parce qu'ils sont on voit souvent ça dans les intersaisons, les documentaires, ils regardent du film ensemble, ils sont ensemble tout le temps, ils se donnent des conseils, ils travaillent beaucoup par groupe avec le coach de position. Et donc ouais, si jamais t'imagines, il y a un receveur qui l'a et qu'il tombe chez les receveurs ou choses comme ça, ouais, ça peut vraiment être je pense que c'est très très mentionnable. Comme tu as dit, bon, il y a le cas Ezekiel, il n'y a pas eu vraiment d'autres cas j'ai de mémoire hein, qui sont vraiment trop trop sortis en NFL, mais il y en a qui sortent en NBA depuis une dizaine de jours, et en college football, il y en a beaucoup. Donc malheureusement comme tu as dit, il y a beaucoup plus de chances que non qu'il y ait des cas positifs dans les équipes de foot US.
Ouais, totalement. C'est pour ça, j'entendais ça, je sais plus. Alors là, je balance trop de références pour les 15 premières minutes. J'entendais ça, je ne sais plus où j'entendais ça, qui expliquait que ça va être l'année la plus fluide pour les free agents. Parce qu'en fait, si tu pars du principe et du postulat, je pense qu'on peut assumer hein, que certaines équipes vont avoir des pertes à certains postes très précis, certains free agents vont pouvoir très vite s'incorporer dans telle ou telle équipe. Mais ça pose un autre problème sanitaire, c'est se dire si par exemple ce free agent qui vivait à Los Angeles doit je sais pas faire une pige du côté aller, disons de Cincinnati, s'il amène avec lui le virus, tu peux créer un nouveau cluster, ça pose problème. C'est aussi pour ça, par exemple, qu'un Bruce Arians avait dit que son troisième quarterback, il allait le mettre en isolement. Parce qu'au cas où ça tournait dans l'effectif, il voulait toujours avoir un lanceur disponible. Ce qui est une bonne idée et ce qui pourrait même être étendu à d'autres positions. Alors, tu vois, moi, je vais prendre l'exemple des Ravens. Les Ravens ont plusieurs cornerbacks de bonne qualité. Est-ce que t'en mettrais pas un parfois au frigo pour te dire, si jamais on a un petit problème, surtout, je sais pas, quelques semaines avant les playoffs, si on va jusqu'à là, on va revenir, rien n'est garanti. Pourquoi pas le mettre au frigo en s'assurant, ce mec-là sûr sera là. Parce que tu sais pas la suite, en fait. Tu sais pas ce qui peut se passer.
Ouais, et ça ramène à toutes les questions d'équité et compagnie qu'on avait pu évoquer sur la reprise de la NBA et tout ça. L'équité dans le sport, le calcul et tout ça. Ouais, je suis d'accord parce que les effectifs bougent, hein, beaucoup, hein. C'est-à-dire que toutes les semaines, un ou deux joueurs, il y a des visites aussi, tu sais, souvent au Patriots, c'est vrai que nous, on a des équipes, donc on connaît bien comment ça fonctionne les nôtres, mais moi, tous les lundis, tous les mardis, il y a 5-6 joueurs 5 free agents qui viennent au Patriots, tu vois. Tester et qui peuvent repartir avec un contrat, comment tu fais? Comment tu les accueilles? Comme tu as dit, s'ils viennent d'un état du sud, la Floride, le Texas, des états qui repartent un peu la Californie, ça peut poser beaucoup de problèmes, ça pose des problèmes donc pour les équipes, si jamais elles ont des blessés, ça pose des problèmes pour les joueurs qui n'ont pas de contrat, eux, c'est vraiment problématique économiquement, financièrement, dans leur vie, et puis c'est problématique, voilà, pour le fonctionnement même de la ligue, quoi.
C'est pour ça, c'est Malcolm Jenkins qui disait qu'il n'avait pas encore l'assurance, il n'avait pas encore les gages pour vraiment, se sentir rassuré. McVay, enfin beaucoup, autant niveau coach que niveau joueur, il y a quand même eu des voix qui se sont élevées pour dire, les mesures, les règles, elles sont où? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que tu vois, tu t'as donné les chiffres, c'est totalement invraisemblable de penser à une espèce, ne serait-ce que bulle. Au niveau NFL, c'est beaucoup trop gigantesque et tu mettrais tout ce monde là où c'est impossible. Puis surtout, il y a aussi l'aspect comment tu peux là où tu peux enfermer une trentaine de personnes côté NBA, tu peux pas enfermer un staff de 50 personnes aussi. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Et aussi, je lisais ça, je regardais ça dans une vidéo YouTube d'un docteur qui fait des vidéos YouTube spécialiste de la NFL. Je me suis quand même méfié, on est sur Internet. Est-ce que le mec était vraiment docteur? J'ai fait des recherches. Et apparemment, oui, mais bref, qui expliquait par exemple que selon lui, si on reprend la saison telle quelle, le match du jeudi doit absolument sauter en fait, parce que le match du jeudi amènerait trop de risques. Par exemple, imagine tu n'arrives pas à diagnostiquer quelqu'un avant qui joue dimanche, il pourrait passer ça à deux équipes différentes avec dimanche et jeudi, ce serait extrêmement problématique. Enfin, donc il y a pas mal d'adaptations qui doivent être mises en place. Et si peut-être on n'a rien d'autre à parler. Enfin, si on n'a rien d'autre à rajouter peut-être sur les contraintes, Alan, je te propose d'enchaîner sur. Imaginons voilà que la saison reprend comme prévu, 2 semaines de pré-saison. Quels sont selon toi les problèmes que vont poser cette nouvelle saison? On peut commencer par les fans. Qu'est-ce qu'on fait?
Déjà, ça devait être une saison qui changeait un peu parce qu'il y avait une place en playoff de plus. Donc déjà, on n'aurait pas appréhendé la saison de la même manière. En termes de fans, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mouvements durant l'intersaison. Il y a pas, c'est une saison qui s'avérait sur papier vraiment vraiment excitante. Et là, oui, je sais pas quoi, enfin, je sais pas comment l'appréhender en fait. Pas de fans dans les tribunes. On a déjà parlé en off de tous les problèmes que ça pouvait poser dans un sport comme le football américain, qui est vraiment poussé, qui pousse la tactique et le secret à son paroxysme en sport quasiment. La précision du geste, la précision des appels de jeu, tout est au centimètre près, hein. Donc tout ça pose problème. Pour le fan, je pense que ça va être une expérience très très bizarre, parce que en match de NFL, il y a beaucoup beaucoup de bruit quand l'équipe qui n'est pas à la maison a le ballon. Toujours ce sentiment que c'est il y a beaucoup beaucoup de bruit, donc et même à l'université, énormément de bruit dans les stades. Donc je sais pas, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va fonctionner. 2 semaines de pré-saison contre 4, c'est pas la même chose non plus.
Surtout vu le caractère de l'intersaison. Tu vois, enfin,
Exactement.
il y a des doutes qui se posent sur est-ce que les joueurs sont restés en état de forme, etc. Il y a peu eu de mini-camps. C'est-à-dire qu'en gros, pour certains, ça va être leur, enfin pour beaucoup, ça va être la première. Imaginons, t'as une équipe qui n'a même pas joué les playoffs. C'est le premier contact avec ta franchise en 7 mois. En
Ouais.
7 mois.
Exactement. Puis surtout, on connaît les, comme j'ai dit, ça commence à 90, il y a 53 gars qui restent. On va dire qu'il y a les, entre 40 et 45 mecs, on sait qu'ils sont safe à chaque fois pour faire l'équipe. Ça reste 8-7. Normalement, t'as les 4 matchs de pré-saison et tout le training camp où t'as 40 gars qui se battent pour 10 postes. Voilà. Ça va vraiment être compliqué. Est-ce qu'il y aura pas des franchises qui vont choisir la facilité? En fait, prendre seulement les joueurs qu'ils ont draftés et tout ça. D'autres qui fonctionnent pas comme ça, on le sait. Mais ouais, ça va enlever un peu de saveur à la pré-saison. Enlever déjà, s'il y en a, parce que c'est vrai que la pré-saison, des fois, c'est assez compliqué à regarder si tu n'es pas fan de l'équipe qui joue. Mais moi, c'est plus l'expérience, voilà, pas de fan, comment ça va se passer en termes de stratégie sur le terrain.
Totalement. Prenons peut-être le cas précis des fans. Alors, il y a eu pas mal de propositions. Alors, le jour où on enregistre, il y a une proposition qui est sortie assez incroyable, assez lunaire, je dois l'avouer, qui voudrait que les fans puissent assister au match, mais signent une décharge au cas où ils contractent le coronavirus. Ça pose quand même des gros problèmes en termes, ne serait-ce que, je trouve, moral, parce que
D'éthique, quoi.
si. Ouais, parce que t'imagines, tu t'as signé. Ok, toi, tu as signé cette décharge, mais si tu contractes le virus, les personnes avec lesquelles tu vas être en contact après, elles ont pas signé cette décharge, elles.
Non, bah non.
Enfin, bref, ça pose des vraies questions. J'avais vu par exemple Miami qui proposait un projet, leur stade peut accueillir environ 80 000, si je me trompe pas, et ils proposaient de descendre à 15 000, c'est-à-dire pour mettre en place avec plein de processus pour assurer les séparations entre fans et joueurs. Mais peut-être sur l'aspect terrain pur, tu l'as dit, les appels de jeu, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire, Alan? Est-ce qu'on met des bruits dans la sono? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je t'en parlais en off. Steve Young, j'ai pu lire une de ses interviews dans le Los Angeles Times, il expliquait que quand il jouait au Coliseum à 10 000 spectateurs au Coliseum, il était obligé de reculer le huddle parce que les défenseurs entendaient. Donc imagine dans un stade vide, on fait quoi?
Stade
On
vide.
met du faux bruit, on fait comment?
C'est très bonne question. Et t'as des franchises qui font ça avant d'aller jouer, quand elles ont un match au Superdome notamment, et qu'il y a un bruit assourdissant, c'est musique à fond. Ou avant d'aller jouer à Seattle ou à Kansas City, ils se mettent dans certains centres d'entraînement, ils se mettent dans un terrain intérieur, musique baffe à fond pour que ça puisse gérer. Donc pour que le quarterback puisse s'habituer, les receveurs aussi, mais la ligne, tout en fait, tout le monde doit s'habituer, parce que tout le monde a un rôle précis à faire, et s'il y en a un qui le fait mal, bah ça peut faire tout capoter. Donc il y en a qui font ça, mais c'est un peu dénaturé. Je veux pas entendre du heavy metal super fort en fond de mon match de foot américain le dimanche, tu vois. Genre, c'est pas quelque chose qui me... Après, ça peut être une solution, parce qu'en vrai, et c'est en s'intéressant au foot US qu'on apprend ça, ou qu'en regardant des reportages, les Hard Knocks, des choses comme ça, les Do Your Job, les reportages comme ça, où tu te rends compte que, bah, quand par exemple Rodgers ou Brady, ils sont dans le huddle, pour annoncer une action, c'est genre 6 mots de suite avec 3-4 chiffres. Et Et genre, en fait, ça, c'est chaque mot a une importance, chaque chiffre a son importance. Le receveur, chaque receveur sait à quel mot il est alloué, à quel chiffre il est apparenté. Et donc, ça marche comme ça. C'est pour ça que ce sont beaucoup étudient beaucoup pour apprendre par cœur tout ça. Comment tu fais si l'équipe adverse, elle a, gros, bah, parle aux familles, elle a cramé au bout d'une dizaine de jeux que ça, c'est ça, ça, c'est ce type d'action, le coordinateur sait maintenant, comment tu fais? Puis la défense aussi, elle parle entre elles, elle s'annonce, t'as le linebacker central, normalement, il est censé appeler les jeux, dire toi, t'as ça, t'es sur 52, par exemple, ou choses comme ça, on va tout entendre. Donc pour nous, ça peut être bien, l'expérience de fan, ok, peut être sympa, mais pour les coachs, c'est horrible, je pense.
Totalement. Puis on peut même voir plus loin. Imagine, on a alors de ce qui, je vais en parler, mais de ce qu'on peut lire, visiblement, ils vont quand même essayer de mettre du son parce que c'est c'est impensable qu'il n'y ait pas de son. Parce que ça, parce que imagine, il n'y a pas de son. Ben, moi, c'est simple. Hein, je suis une équipe, par exemple, je suis une équipe de premier plan. Disons, allez, on a parlé de NFC la semaine dernière. Je suis les Saints. Moi, je regarde tous les matchs des 49ers, des Seahawks, des Cowboys, des Buccaneers. J'écoute tous les appels de jeu, tout ce qui se passe. Et une fois arrivé en playoff, bah, c'est très simple, hein. Les coordinateurs se connaissent entre eux. Tu peux avoir craqué l'intégralité de
Mais
leur game plan. Enfin, leur plan de jeu. Enfin,
ils arrivent
c'est
déjà à
extrêmement
craquer
cool.
les game plans, limite des fois.
Oui.
Donc là,
Alors.
t'imagines?
T'imagines si t'entends les appels de jeu, etc. Enfin, même et encore pire que le huddle. Imagine comment tu pourrais faire des, comment tu pourrais changer le jeu sur la ligne une fois que tout le monde est mis en place. C'est impossible parce que là, ça serait totalement, totalement cramé. C'est pour ça que Joe Buck expliquait. Alors déjà pour, il expliquait que c'est limite plus important pour l'expérience fan que pour les joueurs en plus, avoir le bruit, etc. C'est vrai qu'en playoff, c'est un marqueur le bruit. Et ils expliquaient qu'ils réfléchissaient peut-être à mettre à travers une application des fans depuis chez eux qui feraient du bruit, etc. Enfin moi, quand on me propose cette solution-là, elle était proposée dans pas mal d'endroits, mais j'ai toujours pensé au. Il y a quand même un délai, il y a un décalage. Enfin moi, j'ai. Enfin
Le
bref,
fond en Angleterre, t'as 10 secondes de décalage.
Enfin c'est ça m'a toujours posé question. Ou alors il faudrait caler le match sur, tu vois, faudrait décaler la retransmission de 10 secondes pour qu'en fait le redécalage soit pas pris en compte. Enfin bref, passons. Ça pose beaucoup de questions, tu vois, l'expérience fan, etc. Comment on va faire? L'avantage du terrain aussi. Une franchise comme New Orleans, franchise comme Seattle, avoir l'avantage du terrain en janvier, pour eux, c'est beaucoup.
Kansas
Qu'est-ce qui va
City.
se passer? Ouais, Kansas City, qu'est-ce qui va se passer si les seuls bruits qu'il y a, c'est juste du heavy metal? Je vais reprendre ta. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Est-ce qu'il faut faire comme la NBA, mettre en place des mécanismes pour donner plus d'avantages, sachant qu'on va être sur une saison un peu bizarre?
Sais pas. En plus, c'est sur un match. C'est pas sur une série. Au meilleur des sept. Ça pose vraiment problème sur la légitimité à avoir l'avantage du terrain, ça c'est clair. Déjà, alors que c'est vraiment quelque chose d'hyper important en NFL. On se rappelle que je crois avant cette année ou l'année non, avant 2010, entre 2012 et 2018, les têtes de série numéro 1 avaient toujours été au Super Bowl, je crois, c'était quelque chose comme ça.
Ouais, bah les derniers, c'est les derniers vainqueurs hors 1-2, ça doit être les Ravens. Hein.
Ouais, c'était les Ravens, et puis après c'était les Patriots qui étaient des séries numéro 2, qui avaient été gagnés à Kansas City, étaient des séries numéro 1. Mais avant, quand ils étaient de séries numéro 1, t'allais au Super Bowl. Donc, ça prouve quand même, on peut dire ce qu'on veut, c'était quand même, oui, c'était des équipes historiques, des super bonnes équipes, mais elles allaient quand même au bout. Donc, ça prouve l'importance que ça a à Denver, notamment aussi, par exemple, avec l'altitude, ou des choses comme ça. Ça change beaucoup de choses. Alors, certains pourraient dire que ça va être moins inégalitaire, c'est potentiellement vrai pour les équipes à l'extérieur. Des fois, on sait qu'en playoff, on leur donnait quoi, aucune chance de gagner. Ils étaient moins bons et en plus, ils jouent à l'extérieur. Bon, là, ça peut-être un peu rééquilibrer si on veut voir le côté positif. Mais encore, ça. Mais si c'est ça, ça enlève de la légitimité à la saison régulière, en quelque sorte.
Puis
Aussi.
c'est volontairement déséquilibré. C'est un déséquilibre que tu as mérité, que tu as gagné parce que tu étais devant en saison régulière.
Et ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis d'accord.
Tu vois, c'est quelque chose que tu as mérité. Donc, limite, pour moi, c'est normal qu'il y ait ce décalage-là. Puis ce qui est bien, c'est que depuis le début, on parle saison, on s'avance, mais beaucoup, notamment c'était dans un article cette fois-ci, je sais plus, j'ai lu trop d'articles pour ce podcast-là, donc je m'y perds, qui expliquait que c'était justement le même David Chao, le même l'ancien médecin des Chargers entre 96 et 2013, si vous voulez vraiment toutes les infos, qui expliquait que il parierait pas sur le fait que la saison va finir. C'est là où la problématique qu'on a parlé au début, commencer c'est bien, finir c'est différent. Surtout que, alors, on n'est pas spécialiste Covid-19, on n'est pas médecin, il y a toujours cet affrontement de bataille de clochers. Est-ce que l'hiver va intensifier peut-être cette peut-être deuxième vague? Tu vois, c'est un débat qu'il y a, etc. On ne sait pas, nous. Mais si ça s'avérait être vrai, ça poserait un vrai problème parce que la saison NFL se finit en plein hiver. Donc, on fait comment?
C'est fini le premier dimanche de février. Donc on est en plein hiver. Ça pose un problème. C'est pour ça aussi, t'en parlais tout à l'heure, c'est les deux ligues qui ont eu à commencer ont toujours pas sont celles qui sont le plus floues. La baseball aussi hein, devait commencer en avril, ils ont toujours pas commencé. Il y a le plan est même pas, on sait pas. Donc comme tu disais, c'est le truc le plus essentiel, je trouve, très intéressant. C'est beaucoup plus difficile de commencer que de finir. Non.
C'est ça, parce qu'en fait, les retombées financières pour la NFL, la NBA ou d'autres ligues, en gros, montrent à leurs annonceurs, en gros, on va finir coûte que coûte. Là, si tu promets aux annonceurs, je disais par exemple que Pepsi, quand Pepsi fait un partenariat avec une équipe précisément, elle le fait, par exemple, dans un stade pour que ça soit vu par 80 000 personnes. Si c'est vu que par 15 000 personnes, qu'est-ce qui doit se passer? Est-ce que la franchise doit rembourser, etc., les billets? Parce qu'on sait qu'il y a deux types de revenus dans la structure NFL. Il y a les revenus, on va dire, nationaux, droits TV, etc., et les revenus locaux, qui sont par exemple liés au stade. Les stades vont pas être remplis. Donc, comment ça se passe? Enfin, c'est extrêmement compliqué. Et je pense que là où, je sais pas si tu vas me rejoindre, c'est compliqué en NFL, c'est que de base, il y a une animosité dans le rapport joueur-propriétaire. Qui, bien sûr, existe dans tous les sports américains, mais elle est décuplée en NFL.
Ouais.
Et du coup, s'il y a des pertes, qui va trinquer? Probablement les joueurs de fin de chaîne.
Il y en a énormément. Si tu regardes un peu les effectifs, t'as souvent, les Rams ont fait ça encore pire, mais t'as souvent, 12 joueurs sur 55-60 qui génèrent 75-80% des revenus. Peut-être. T'as beaucoup de joueurs, pour ça que c'est très important de bien drafter, c'est très important de trouver des joueurs non draftés qui peuvent contribuer, parce que c'est des salaires faibles qui te permettent ensuite de signer des gros agents libres. Tu peux pas en signer 20 000 des gros agents libres. Tu peux en signer, mais c'est les formations de contrats sont de telles. Donc ça crée de l'animosité entre, déjà qu'il y en a de l'animosité sur les contrats, ça peut influencer le CBS, ça va influencer les revenus de billetterie, comme tu l'as dit, ça va influencer beaucoup de choses. Et la NFL a, comme la NFL ne communique pas, on n'a pas vraiment à, on est dans les prédictions, tandis qu'à la NBA on pouvait dire, ah ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça je pense que c'est bien, ça je pense que c'est pas bien. Là, on fait des prédictions, tout en ayant quand même un avis assez négatif sur pas mal de choses, j'ai l'impression, plus négatif que positif.
Oui, totalement, totalement. C'est vrai qu'on va peut-être conclure ce chapitre-là, mais beaucoup de questions se posent. J'écoutais encore une fois le fameux, parce que oui, il y a les questions sur les contrats. Il y a aussi les questions sur les renégociations. Il y avait l'exemple, je lisais l'exemple de Myles Garrett. Myles Garrett, on lui promet un contrat mirobolant, le pass rusher des Browns. Qu'est-ce qu'on fait si le salary cap descend l'année prochaine? Tu fais quoi? Enfin, le camp de Myles Garrett, je pense, aimerait bien négocier maintenant. Côté Browns, on va peut-être se dire, on va pas mettre 25 millions sur le pass rusher si l'année prochaine le salary cap il descend, tu vois, alors qu'il continue à augmenter. Un petit point peut-être pour finir. Je te disais, je regardais donc cette vidéo sur YouTube intéressante du docteur Mike Hansen, qui avait donné 12 points, selon lui, 12 adaptations que devrait faire la NFL si jamais elle voulait absolument reprendre en temps de coronavirus. Je vais te lire les 12 et tu vas peut-être, s'il y en a une ou deux qui t'intéressent, tu peux m'arrêter. Okay. Parce que je trouve qu'il y a pas mal de points intéressants. Premier point, pas de fans. Deuxième point, enlever 2 matchs de pré-saison. Bon, ça, ça a été fait depuis qu'il a enregistré cette vidéo. Troisième point, tester les joueurs tous les jours. Quatrième point, 2 fois prise de température par jour. 6 positifs, 2 semaines sans jouer. Ça, c'est le 5e point. 6e point, agrandir les rosters. Absolument. 7e point, pas de match le jeudi. Logistique trop difficile. 8e point, masque pour tout le monde sans casque. Alors ça, on pourrait y revenir. Je pense que c'est impossible. C'est impossible. Mais bref. 9e point, distanciation sociale. 10e point, modifier les casques. 11e point, test de vitamine D. 12e point, accepter les risques. Et juste pour finir sur ce 12e point qui est intéressant, faut savoir que même dans sa communication, la NFL a déjà accepté le fait qu'il y aurait des cas. Ce qui, quand même d'un point de vue moral, pose aussi des questions.
Non, le point du... c'est con. Par exemple, l'agrandissement des rosters. Mais donc, ça veut dire quoi? Tu remontes à combien? Peut-être simplement dire que ceux qui sont dans ce qui s'appelle le practice squad sont dans le roster. Ça ferait monter à 60.
Ouais, tu fais ça comment? T'agrandis le practice squad? Est-ce que t'agrandis le roster en lui-même? Parce que si t'agrandis le practice squad, le problème, c'est qu'on sait que les franchises NFL peuvent se voler dans leur practice squad.
Et qu'il y en a qui préfèrent mettre sur la liste des blessés qui jouent plus de la saison plutôt que de les laisser sur leur practice squad. Parce que tu peux te le faire prendre. Et en plus, c'est même pas, avec le practice squad, ça ferait 63 joueurs. 100, c'est 53. Et sur la feuille de match, c'est 45. Parce qu'il y a toujours les inactifs aussi. Est-ce que tu t'enlèves les inactifs, par exemple? Donc, quand tu passes de 45 à 53 joueurs. Ça peut être une solution, ça aussi. Enlever les inactifs. Mais, ouais. Bon, pour moi, c'est une des meilleures solutions parce que ça permet de faire. Mais en même temps, les équipes, elles veulent gagner. Elles vont pas mettre leur 4e corner sur certains joueurs parce qu'il faut faire tourner les effectifs à cause de la pandémie. Tu vois, encore une fois, c'est comme quand on parlait de la NBA, c'est reprendre, mais reprendre à quel prix, quoi.
Mais totalement. Et puis, roster plus grand, tu vois, se pose une question. Ils vont être dans quelle situation un peu, il y a aussi, tu vois, tu l'as dit, la liste des blessés, tu vas être obligé de, on sait que ça a été transformé, maintenant tu peux revenir quand t'es sur l'injury reserve, tu peux revenir. Ouais. Mais le problème, c'est que, par exemple, un joueur est testé positif au coronavirus, il va être mis sur cette liste-là, parce qu'il va pas être coupé, tu vois, si c'est le quarterback de ton titulaire de ton équipe, tu vas pas le couper pour le coronavirus. Le problème, c'est que il faudrait faire en sorte que cette année, cette liste, tout le monde puisse revenir.
On va faire une liste spéciale, une liste spéciale coronavirus.
Tu vois, et encore, est-ce qu'on croit, tu vois, on en revient toujours au problème de la bonne foi, est-ce qu'on croit qu'elle sera toujours utilisée pour le coronavirus, celle-ci?
Non.
Parce que si c'est ça, moi je te dis, moi je suis manager NFL, je mets personne sur la vraie liste. Parce que du coup, tu mets tout le monde sur celle-ci et tu t'offres des possibilités de toujours faire revenir les gens, tu vois.
Exactement. Ouais, totalement. Ouais, il avait le coronavirus, on l'a mis. Regardez, on respecte la loi et tout ça.
Ouais.
Ouais, c'est clair.
Puis par rapport aux 12 points que j'ai pu citer, alors bien sûr, celui de masque pour tout le monde sans casque sur les... Alors celui-là, on y croit combien de secondes, celui-là? Deux? Une seconde? Déjà, quand tu sais que c'est difficile de faire accepter à certains Américains le port du masque, alors sur le côté d'un terrain de sport, c'est-à-dire que dès que tu retires ton casque, tu devrais mettre le masque, c'est infaisable.
Non, puis j'ai une question bête aussi, mais si le coach qui appelle le jeu, il a un masque, on peut comprendre ce qu'il dit?
Oui, parce qu'on peut parler avec un... Oui.
Ouais.
D'ailleurs, je pense que c'est les seuls qui seraient contents parce qu'ils auraient plus besoin de se cacher la bouche.
Plus besoin de mettre le cahier de jeu là sous la bouche.
Ouais. Ils pourraient parler comme ça, tu vois. On a trouvé un point positif.
Ouais.
Finalement.
Mais pour toi, c'est qui les équipes qui... Vas-y, ça, je le vois beaucoup, on en a pas parlé, mais les équipes les plus influencées par le coronavirus.
Alors, on dit souvent que les équipes qui ont eu de la stabilité vont bien s'en sortir. Honnêtement, je sais pas, parce qu'il y a aussi le concept, tu vois, de l'État. Est-ce que des équipes stables dans des États où la situation sanitaire elle est catastrophique, Tu vois, ça pose question. Les Saints, est-ce que les Saints sont mieux lotis, malgré qu'ils ont une grosse équipe et qu'ils ont de la stabilité, qu'une équipe, je sais pas, comme les Bills, qui est aussi forte, mais qui est dans un état qui a passé le pic. Quid des Buccaneers, qui, eux, réunissent les deux pires facettes. Ouais. D'un côté, ils ont un effectif qui a été le nouveau quarterback, etc. Il faut s'adapter. Et de l'autre, Floride. Hein, c'est extrêmement difficile.
Ouais.
J'aurais tendance à dire peut-être oui, les équipes stables seront avantagées, mais j'ai tellement l'impression qu'on est sur la planète Mars que je pourrais même pas m'avancer.
Ouais, là, faut pas réfléchir seulement qui a en termes de stabilité, il faut réfléchir, je pense aussi en localisation géographique. Localisation géographique, c'est vraiment un argument essentiel.
Totalement, ça pose même la question, tu vois, par exemple, imaginons dans certains, on sait que, voilà, on est dans un état fédéral, le poids des gouverneurs, imagine que on se retrouve en novembre, une franchise est dans un état où le gouverneur a rappelé une espèce de confinement, les joueurs sont quoi? Les joueurs, du coup, tu perds sur tapis vert? Tu perds le match sur tapis vert? Enfin, il y a beaucoup de questions. C'est pas comme la NBA ou d'autres, la NBA où tu as pu profiter du fait que tu vas dans le même état et du coup, bah, tout le monde a les mêmes règles. C'est...
Exactement. Tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça avec le foot US. C'est pas possible.
Et ouais. Et peut-être dernier point avant de finir. Je lisais ça encore une fois. Certaines autorités avaient peur que le foot US, s'il reprend à tout prix, soit à l'origine de foyers. Ce soit la source de nouveaux foyers de par la masse de gens qui gravitent autour d'une équipe NFL, alors, les déplacements, ouais, etc. Ouais.
Ou alors, tu fais vivre tout le monde au camp d'entraînement.
Mais est-ce que c'est réaliste? Justement, Malcolm Jenkins, dans son interview, disait que lui, il veut pas couper sa famille pendant... Enfin, parce que, tu vois, on n'est pas sur un rythme NBA, ça voudrait dire que pendant tout le long de la saison, ils sont coupés?
Ouais, ça...
Tu les coupes, ça fait 5 mois sans voir ça.
Je les coupe 5 mois. Ouais. Je les coupe 5 mois. Et parce que en plus, je pense que c'est une des seules solutions si tu veux éviter. Ça fait une. En gros, tu fais une quarantaine de la semaine et ils jouent le week-end, en gros. C'est genre, c'est n'importe quoi comme projet, quoi, en y pensant.
Mais ouais.
C'est. De toute façon, on voit les journées qu'ils font. Ils se lèvent super tôt, le genre de football américain, souvent. 6 heures, ils vont à l'entraînement, ils reviennent, ils se couchent à 20 heures. Si tu les fais pendant
les camps d'entraînement, parce que je crois que c'est un des frères Bennett qui avait dit que pendant la saison, il s'était plaint que les mecs jouaient trop aux jeux vidéo et ne faisaient pas assez d'actions civiques, etc.
C'est vrai. Mais tu pourrais te dire, en gros, t'as pas le droit de dépasser les 5 miles du camp d'entraînement, en gros. Je sais pas, je suis pas médecin, comme on l'a dit, on fait des propositions à l'air. En même temps, la NFL propose rien, donc...
C'est vrai que on est obligé de faire ça, et on est obligé de pallier, c'est vrai. Un dernier mot, Alan, moi, je dirais juste que je pense qu'on s'achemine vers une saison NFL extrêmement étrange et qu'en plus, si la NFL n'avait pas que ce sujet-là à traiter, elle a quand même, dans le contexte social américain, surtout vu que c'est la NFL et bien sûr, on parle du dossier Kaepernick, double problème. On parlait, pour ceux qui, je pense, certains des auditeurs du Safety écoutent le podcast de Kebdo, on parlait du fait qu'il y avait voilà cette double tension, contexte sanitaire, contexte social. Pour la NFL, les deux sont sous nitroglycérine. Hein. C'est-à-dire que les deux sont extrêmement plus difficiles à gérer que la NBA. Et c'est déjà un casse-tête en NBA.
Avec des pincettes, là. C'est vraiment avec des pincettes. Il y avait pas mal de choses, il y a eu limite, je sais pas comment on peut, des excuses publiques de la NFL vis-à-vis du caca Pernic, la petite vidéo avec des superstars de NFL pour Black Lives Matter qui chacun disent le nom d'un Afro-Américain qui s'est fait qui a été victime de violence policière cette année, avec vraiment, tu voyais sur les visages la détermination politique et sociale. Ouais, c'est le double contexte, il est encore bien plus profond et fort avec la NFL, donc c'est, il y a ça à gérer aussi, c'est vrai.
Roger Goodell, il va bien mériter son salaire parce que ça va être des mois difficiles en prévision. On vous invite à réagir du coup sur ce débat sur Twitter si vous avez quelque chose à dire. Mais avant de conclure, Je suis obligé de te donner la parole, Alan.
Ah.
C'est l'info de la semaine. Tu m'as envoyé un message de décalage horaire oblige. Moi, je l'ai reçu en pleine nuit et j'ai vu un message très simple. Cam. Trois lettres. C'était assez simple. Cam Newton fait son arrivée du côté des Patriots. Allez, je te laisse la tribune. Dis ce que tu veux, ton impression. Qu'est-ce que ça dit des Patriots? Est-ce que, du coup, il faut à nouveau compter dans la AFC? Allez, je vais quand même te poser une question.
Ouais.
Est-ce que, du coup, on avait fait notre petit exercice, tu vois, qui est la troisième meilleure équipe en AFC avant l'arrivée de Cam Newton? Maintenant que Cam Newton est arrivé, est-ce que tu remets les Patriots troisième ou voire plus devant les Ravens, voire devant les Chiefs?
Si, non, mais si Cam Newton est en bonne santé, on est troisième, je pense. Ouais. Je nous avais mis quatrième, juste derrière les Steelers et puis avec les Texans aussi. Je pense à pas mal de choses qui se disent. Pour moi, c'est vraiment, mais vraiment, encore une fois, les Patriots qui gagnent la loi du marché, qui attendent, qui profitent des erreurs de... C'est Mike Lombardi qui a dit la phrase que souvent que lui disait Bill Walsh, c'est « La NFL te donne les moyens de t'améliorer, faut juste pas rater l'occasion, en fait. » Et il y a beaucoup de gens qui ratent des occasions, et là... Bah, le prix a tellement baissé qu'au bout d'un moment, Belichick s'est dit, faut y aller. Ça, pour moi, ça remet pas du tout en cause le futur de Stidham. Peut-être que Stidham, c'est le futur peut-être dans 2 ans. Quand il aura passé deux, trois ans dans le staff, là, l'occasion était trop belle. Cam Newton, c'est plus le joueur qu'il était en 2015. Il a vraiment eu ce pic-là. Mais c'est pas non plus le joueur qu'on a vu sur des mauvais matchs en 2018, l'année passée aussi, en 2017 et l'année passée. C'est un entre les deux, donc c'est un above average starter, ce que n'est pas Jared Stidham, loin de là. Encore, donc rien que pour ça, ça rehausse le niveau potentiel des Patriots. Ça veut dire que là, on a 5 quarterbacks dans l'effectif. Pour le coronavirus, c'est intéressant aussi quand on y pense. On a 5, hein. On a 5 quarterbacks. Je pense que c'est Cam Newton qui est favori pour gagner le job. Pas mal de gens parlent des armes. C'est vrai que c'est pas exceptionnel, mais à Carolina, il avait pas non plus les armes de Tampa ou les armes d'autre chose à côté.
Et il avait pas de ligne aussi.
Pas de ligne aussi. Là, il y a une bonne ligne, il y a un bon staff, un bon dessinateur de jeu. Puis voilà, voir... Belichick avec un quarterback comme ça qui nous a toujours défoncé aussi, c'est ça qu'il faut dire. Newton nous a toujours défoncé. Il est invaincu contre les Patriots quand même. Donc
ce qui est une stat que très peu de joueurs très peu de joueurs peuvent se targuer, je pense.
Ouais, sur plusieurs matchs en plus, donc c'est très impressionnant. Donc ouais, je suis très très satisfait de la signature. Ça pour moi c'est juste s'il est en bonne santé, voilà, si c'est bien remis du coude et du pied, je pense que c'est un starter entre 12 et 16 en NFL, peut-être même mieux si on arrive à le maximiser. Et rien que ça, c'est beaucoup mieux en 2020 que Jared Stidham. En 2022, peut-être pas, mais en 2020, c'est beaucoup mieux que Jared Stidham.
T'as parlé de 2022, allez, on est le 1er juillet, quand on enregistre, on est le 1er juillet 2020. Est-ce que Cam Newton, s'il y a toujours une NFL, hein, si le monde n'a pas été détruit depuis, est-ce que Cam Newton sera starter des Patriots en 2021, tiens?
Moi, j'aimerais bien, parce que ça veut dire qu'il a fait une bonne saison et qu'il mérite. Il faut savoir que les Patriots en 2021 auront énormément de cap space. On va passer de l'équipe qui a le moins de cap space à une équipe qui a un cap space top 5. Donc là, Cam Newton a été signé pour 1 million, mais il y a des bonus qui vont là, ça marche comme ça. Donc j'aimerais bien, ça voudrait dire qu'il aura fait une belle saison, il a 31 ans, qu'il n'est pas terminé, peut-être qu'il peut remodeler un petit peu son jeu. Mais en même temps, je pense que ce que j'ai lu aussi, c'est que les Patriots, ils n'ont pas signé Cam Newton pour le transformer en pocket passeur. Le do your job, c'est on prend pour ce que tu sais faire et on va appuyer dessus et tout. Donc je pense qu'on verra un Cam Newton qui va être utilisé comme Cam Newton sait le faire. Et si, voilà, si les problèmes de santé le laissent de côté, il y a une défense pour l'aider. Et puis voilà, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien qu'en 2021, ce soit le starter. 2022, on verra. Mais si là, pendant 2 ans, il nous permet d'avoir un niveau de jeu à la position de quarterback positif, ce que je ne pense pas que Stidham pouvait donner, même si toute la Pats Nation est à fond derrière Stidham, moi je suis très content qu'on ait signé Cam Newton et que ça soit potentiellement notre titulaire.
Totalement, ça fait au moins un titulaire sûr et un joueur qui aura beaucoup à. Pour toi, j'ai même pas fait l'affront de te poser cette question. Il est titulaire, c'est le numéro 1 à 100%. Il n'y a même pas de compétition avec
Non.
Stidham.
Non, pour moi, il n'y a pas de compétition.
D'accord, c'est vrai que ça fait déjà. On en avait beaucoup parlé, hein, mais dans cette AFC où c'est entre jeunes quarterbacks ou quarterbacks un peu sur le déclin, Newton arrive dans un espèce d'entre-deux, même si on peut quand même assumer que Newton est un peu sur le déclin quand même par certains aspects. Je pense qu'on c'est quand même peu probable de voir le Cam Newton MVP du côté de Foxborough, mais rien qu'un quarterback moyen chez les Patriots, c'est extrêmement dangereux pour la FCS. Je pense que du côté des Bills, du coup, on est peut-être un peu moins serein sur une possible victoire dans la FCS et pour la FC globalement. Surtout que tu vois, tu l'as dit, l'objectif c'est pas d'en faire un pocket passeur et on sait que, par exemple, le cas de Lamar Jackson, on sait que les Patriots se sont renseignés. On sait que ça fait des années qu'à chaque fois qu'il y a un quarterback mobile à la draft, on entend quelques semaines après que les Patriots s'étaient renseignés sur lui. Donc je pense que Belichick a réfléchi à ça depuis pas mal de temps quand même, au danger d'un quarterback mobile.
Ah oui, de toute façon, quand on regarde ce qui se fait en NFL, maintenant, il faut des doubles menaces, hein. Il faut de la mobilité. Et donc, avec Brady, c'était tellement fort dans la poche et dans la lecture que ça pouvait ne pas poser problème, mais ça pouvait limiter un petit peu ce que la créativité. Là, en termes de créativité, il sera moins bon dans la poche, ça c'est sûr. Mais dans la créativité, tu peux avoir plus de choses. Tu peux avoir, ça peut aider le jeu au sol aussi, parce que c'est une menace pour le jeu au sol. Ça peut aider pas mal de choses. Après, pour la ligne, voilà, il va falloir qu'il s'habitue. C'est un système assez unique. Mais Cam, je pense qu'il a aussi il a vraiment faim, j'ai l'impression. Donc, il arrive peut-être dans la meilleure situation possible qu'il pouvait rêver. Donc, lui est très content, je pense. Les Patriots sont très contents de l'affaire, au niveau financier, de l'affaire sportive. Donc c'est un match, je pense, qui peut très bien se passer, ouais.
Totalement. Et ben, on va conclure là-dessus et on verra ce qui va se passer du coup avec Cam Newton du côté des Patriots. C'est quand même très frustrant quand t'es en AFC parce que t'as l'impression que c'est un scandale que Cam Newton soit quand même, c'est quand même disponible à ce moment-là et avec toutes les critiques qu'il a à Cam Newton et tout. Enfin, c'est quand même incroyable de le voir à ce moment-là.
À un
Toutes les
million
critiques
l'année.
à 1 million l'année, oui, c'est incroyable. Je parle des critiques de Newton. Alors maintenant qu'on a un podcast sur ça, on peut s'exprimer là-dessus. J'ai toujours trouvé ça fascinant le cas Cam Newton parce qu'en fait, c'est un peu comme avec ces sportifs où t'as certaines personnes qui pendant des années se sont acharnées sur lui. Par exemple, un Odell Beckham, ça fait pendant des années on s'acharne sur lui et c'est les mêmes personnes qui quelques années après se posent la question. Ah mais vous respectez pas le joueur que c'est. Bah oui, sauf que vous avez mené une entreprise de destruction de son image pendant des années. Donc forcément qu'après, on respecte plus le joueur qu'il a pu être Cam Newton. Et on verra. Je pense bien sûr que je l'ai dit, ça sera plus le Cam Newton MVP, mais ça peut être un titulaire intéressant à voir. Question de la durabilité avec Newton qui est toujours central, hein, parce que s'il fait quelques semaines au top avec les Patriots, mais qu'il est pas vraiment capable de tenir sur la saison, ça pourra poser des questions. Après, il a eu au moins avec Carolina cette année, il a pu connaître une saison un peu moins demandeuse. Donc
Et oui.
voilà, c'est déjà ça.
Exactement. Oui, et puis s'il se blesse, on a un backup. Mais là, l'occasion était trop belle, en fait. C'était trop beau. Donc fallait le faire.
Ok. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va conclure cet épisode numéro 6 du podcast, le Safety. On avait dit qu'on partait sur quoi? Avant de débuter 40 minutes, 30 minutes, et eh ben nous voilà nous rapprochant tranquillement de l'heure. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à réagir par rapport à, même si c'est des questionnements extrêmement compliqués hein, à aborder par rapport au coronavirus et à NFL, qu'est-ce qui va se passer hein, pour une NFL qui est censée quand même démarrer dans 6 semaines à peu près hein, donc on est quand même dans un flou assez incroyable. Enfin, si on fait encore une comparaison avec la NBA, 6 semaines avant son départ, la NBA était censée démarrer fin juillet. 6 semaines avant, ça nous ramène mi-juin. Mi-juin, on avait déjà un plan publié clair, ce qui est pas le cas de la NFL. Donc, beaucoup de questions se posent. Réagir sur Twitter, bien sûr, vous abonner sur les plateformes où vous nous écoutez, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, etc. Nous on se retrouve dans 2 semaines. Le sujet n'a pas encore été décidé, mais allez, je sens qu'un jour ou l'autre, on va quand même parler quarterback parce que mon Alan PFF, et oui, je l'avais pas sorti cette fois-ci. J'ai attendu la fin. Alan PFF va forcément, va falloir, on va devoir avoir un épisode spécial quarterback, peut-être la prochaine fois. D'ici là, on vous souhaite une très bonne semaine et à la prochaine. Salut.
Salut.